dans cette release de CPU. Une faucille, un marteau, un mur et des puces. L'équipe aujourd'hui, Solarus et Dascritch. Notre interviewé est René Speranza, président de l'association de rétrocomputing Silicium. Et j'espère que tout le monde, public inclus, a mis son portable sur silencieux, sinon c'est coulac, hein. Allez, c'est parti. Bonjour à toi, camarade Solarus.
Bonjour, camarade commissaire.
Bonjour aux camarades Megami, Yume et Enflammé. Bonjour aux camarades du Colcos Tetalab qui nous reçoit. Bonjour aux camarades du Softcos Mixar Miris. Bonjour aux camarades de TV Bruit qui filment l'interrogatoire. Privest you vas, Tovarich, enfant du futur immédiat. Aujourd'hui, nous allons te parler de l'informatique derrière le mur. Non, pas le firewall, mais le mur de Berlin. Celui qui se brisa en 1989, annonçant la fin d'une époque. Une époque où le monde physique se préparait à une guerre annihilatrice entre deux superpuissances armées de généraux, précédant d'écoudre et de têtes nucléaires phalliquement tendues, attendant qu'un appui sur le bouton rouge et je me rends compte que je m'égare. Rappelle-toi, on t'a souvent parlé des années 80 sur notre programme. Un moment où la jeunesse de l'Europe de l'Ouest s'émerveillait devant des ordinateurs personnels et des consoles de jeux qui arrivaient dans les grands magasins à l'époque. L'informatique familiale était quand même, soyons objectifs, un loisir de riche. Les ordinateurs coûtaient une petite fortune, il fallait sacrifier plusieurs mois de smicard pour s'offrir un des premiers PC. Un coût conséquent pour que le garçon de famille s'éclate sur des jeux. Oui, la commercialisation de ces joujoux a involontairement fait en sorte qu'il y ait d'un coup plus d'hommes que de femmes à s'y mettre. Et ce même génie marketing a fait croire qu'on achetait des ordinateurs pour des logiciels éducatifs. Ouais, en fait, il s'agissait de défourailler du rouge dans la jungle de commando. Hein. Enfin bon, pendant ce temps, de l'autre côté du fameux mur, l'URSS et les pays du pacte de Varsovie étaient sous le coup d'un embargo qui empêchait l'électronique de pointe de s'y pointer. D'y importer depuis l'Est, par exemple, les microprocesseurs et les modules de mémoire. Bah oui, après tout, il y a le minimum à construire dans l'intelligence de pilotage d'un missile dans un Apple II. Bon, ceci dit, il n'y a pas que la contrebande et du matériel passé en douce dans le paradis communiste. On a des preuves sérieuses via le film documentaire Twistagen à Moscou, où l'on voit un magnétoscope et des cassettes de rock importées en douce depuis l'Ouest. Comment ça, c'est pas un documentaire Twistagen à Moscou ? Non mais, je suis jamais au courant de rien. Reste qu'il y avait des appareils qui étaient conçus, construits et diffusés en Europe de l'Est. D'où une question incongrue. Comment s'est montée une production primo destinée à des héritiers de petits bourgeois alors que l'industrie des micro-composants électroniques était strictement réservée à l'usage militaire ? Sûrement un coup de Zorin. Mais si, le méchant constructeur de microprocesseurs qui voulait noyer à Silicon Valley dans le James Bond dangereusement vôtre. Bah laisse tomber, hein. Visiblement j'ai que des références de vieux ou de films moisis ou de vieux films moisis, enfin je sais pas. Comment dans un plan quinquennal, les démocraties populaires ont-elles pu investir de précieuses ressources dans un loisir de petits bourgeois alors que le peuple doit faire la queue dans les magasins ou attendre 7 ans pour que la Lada commandée soit enfin livrée ? D'ailleurs, je ne sais pas si récemment vous avez essayé d'acheter du beurre. Moi, j'ai dû passer à la margarine d'huile de vidange. La Mutol, elle est très bien puisqu'elle fait friture et huile de moteur. Bref, aussi surprenant que cela puisse paraître, dans cet univers qui nous semble alternatif, que fut le bloc de l'Est, dans ce paradis soviétique dystopique, où tout le monde était surveillé et s'appelait entre eux « camarades », avec suspicion, il y avait une scène de la micro-informatique et même des bornes d'arcade. Oui, des jeux de bar qui se nourrissaient d'une pièce à la valeur faciale incongrue, 15 copecs. Ouais, vous êtes 10 et 5. Et pourquoi 15 ? Mais voilà, l'URSS, cette glorieuse nation qui ouvrit l'ère spatiale de notre espèce en étant la première à satelliser un objet, puis à effectuer des vols spatiaux habités, s'est embourbée dans une crise. Et une crise politique, et puis des crises financières. Et l'URSS et tous ses satellites explosèrent en vol comme une centrale ukrainienne. Mais l'héritage de cette époque n'est pas à négliger. Plusieurs éléments en sont sortis.
des équipes de bidouilleurs talentueux, comme le groupe de demo makers polonais The Silent, qui font actuellement de la musique avec des lecteurs de disquettes, le jeu Tetris, qui fut conçu par des chercheurs moscovites, et de nos jours, parmi les meilleurs spécialistes en sécurité en intrusion informatique, on compte l'antivirus Kaspersky, qui est développé en Russie, et les équipes de piratage qui officient aux ordres du Kremlin. Camarades, enfants du futur immédiat, la qualité du matériel ne fait pas tout. Face à des moyens un peu plus limités, une génération s'est montrée plus ingénieuse et a tenté de mieux exploiter un matériel, car l'inventivité humaine est parfois stimulée par les limites. Et cet exercice se retrouve par exemple dans les pays dits en voie de développement. Des passionnés qui n'ont pas les moyens de s'acheter le tout dernier smartphone, mais qui formeront le prochain milliard d'individus connectés à Internet. Et de nos jours, la plupart de nos joujoux électroniques préférés de petits bourgeois, bon, je suis super bien entouré là-même, eh ben, ils viennent d'un autre grand pays communiste, la République populaire de Chine, devenue l'industrie du monde. Nous en avons à dire sur l'empire du milieu, mais ceci, camarades enfants du futur immédiat, est une autre histoire. Bref, ce mois-ci, nous fêtons le centenaire de la Révolution d'Octobre, celle qui mit les despotes bolcheviques au pouvoir. Oui, je sais, la Révolution d'Octobre a eu lieu en novembre, ça te semble bizarre, mais ils étaient super disruptifs à l'époque. Et pour fêter les 50 ans, les Bolivariens avaient commencé très fort les festivités en tirant sur Che Guevara. Avouez que flinguer un oppresseur terroriste imposant son idéologie d'origine européenne et qui porte en étendard le symbole ultime du capitalisme, le cigare cubain, l'idée était classe. Nous allons simplement assassiner le mythe de la Révolution en parlant de ces joujoux décadents occidentalistes que sont les ordinateurs familiaux et ils l'ont voulu. En attendant, camarades enfants du futur immédiat, Spokonoi Nochi. c'était donc une version chantée en mandarin et le groupe s'appelle Tang Dynasty. Et je pense que ça n'a rien à voir avec une boisson de... d'orange déshydratée, loin de là. Il nous a été difficile d'inviter à Toulouse quelqu'un qui a connu et manipulé ses ordinateurs du temps de la guerre froide. Mais nous avons néanmoins la chance d'avoir une association qui récupère et entretient des ordinateurs et consoles de jeux qui ont fait, qui ont marqué, qui ont construit l'histoire informatique. Et il se trouve que leur collection a quelques trésors. Nous recevons donc René Speranza, fondateur et président de l'association Silicium, historien de l'informatique, auteur de guides sur le rétro gaming et, accessoirement, amateur de carrés très très gros. CPU, carré petit utile. Camarade René, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour commencer, donc, on va parler de l'association Silicium. En soit, comment elle s'est construite, sur quelle petite étincelle?
Alors, en fait, d'étincelle, c'était l'humidité. En 1989, il pleuvait sur Blagnac ce jour-là, et je sortais dans la rue, et il y avait une benne à ordures, et dedans, qu'est-ce que je vois? Un superbe Apple III. Donc un ordinateur qui m'avait fait rêver quand j'étais plus jeune. Je m'étais acheté un Apple II en suant sang et larmes tous les étés pour avoir réunir les fonds pour m'en payer un. Et je vois cette vieille machine là qui prenait la pluie. Alors bon, je me dis, je vais aller la récupérer.
Elle pleurait un petit peu. SDF, bon. Ça crève le cœur.
Voilà, il a fallu que... J'avais même pas... Il fallait une disquette pour la démarrer. J'en avais même pas, mais je l'avais quand même gardée parce que c'était un symbole pour moi. Une espèce de Madeleine de Proust de silicone. Et donc, bon, je la récupère. Et puis après, j'ai un autre copain qui me donne un Hewlett Packard du même style, vachement classe. Pareil, qui valait le prix d'une bagnole quand il était sorti à la fin des années 80, au début des années 80. Et donc, il me dit, bah, tiens, t'as qu'à le prendre, t'as qu'à faire un musée. Et donc,
alors, bon, c'est facile. Vous avez quoi? Vous vivez dans quoi? Dans un T2, un T1 bis?
Ouais, un T1 bis, ouais, exactement.
C'est pour la place quand même, ces enjeux.
Bon, l'idée me plaît parce que j'aimais bien toutes ces machines. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je compulsais des catalogues de machines du début des années 80. Il y avait des milliards de machines qui sortaient, toutes plus belles et mystérieuses les unes que les autres. C'est important le mystère dans tout ça. Et donc j'en parle à des petits camarades qui pensent comme moi et qui disent « Bon, bah effectivement, c'est un truc à faire, ça. » Donc en 1994, on a fondé une association pour sauvegarder ce patrimoine mémoriel. Donc ces mémoires mortes, il fallait qu'elles revivent. Et d'année en année, on a commencé tel des martiens, quoi, mais qui plaisaient, quoi. Les gens, ils trouvaient ça rigolo, c'était sympa de revoir ces merdes d'il y a 10 ans. Et puis, à l'époque, c'était un peu ça, ouais. Et puis, on s'est pas trompé parce que c'est devenu quand même culturellement important, que ce soit l'informatique ou les jeux vidéo, parce qu'évidemment, nous, on était là pour s'amuser, donc on aimait bien faire des jeux vidéo. Et on faisait des expos et on montrait des jeux, forcément, parce qu'il y a un prompt, c'est moyen. Et donc, ben voilà, depuis donc ces nombreuses années, on organise tout un tas d'expos, on participe à des colloques sur la conservation, toutes ces choses-là. Donc on était peut-être novateurs à l'époque. Et maintenant on continue et un jour on rêve d'avoir un musée et moi d'avoir mon buste à l'entrée.
Forcément, en toute modestie.
Oui, ah oui, non, la modestie.
Un buste à la soviétique.
Oui.
C'est-à-dire tout le peuple qui montre d'un endroit voilà, et le leader maximo vers l'autre sens.
Et les pigeons pourront me chier dessus et je garderai une allure stoïque.
Forcément. Actuellement, du coup, quelle est la taille de votre collection et où est-elle entreposée?
Alors, évidemment, on n'avait pas la place de stocker tout ça à Toulouse. Donc, on a un bunker secret dans le Gers.
Ouais, les antiquaires sont moins chers en province.
Ouais, voilà, c'est ça. Et on a à peu près 250 mètres carrés de surface au sol. Et on doit avoir, je sais pas dire, mais mettons 5000 pièces ou un truc, 10 000. Voilà, des montagnes.
Ah ouais. Et du coup, est-ce que vous avez un espace de présentation plus ou moins régulier ou c'est en fonction en fait, des événements?
Et non. On aimerait bien avoir quelque chose de permanent qui nous permettrait d'avoir de sortir des trucs en fonction de thèmes comme là... J'ai exhumé les machines soviétiques, histoire de montrer aux gens, parce que les gens, ils aiment bien voir tous ces trucs-là. Forcément, c'est rigolo. Mmh. Parce que comme je le dis souvent, alors je fais des conférences sur le jeu vidéo, ce que je dis tout le temps, c'est que le jeu vidéo, les gens, ils en conservent tous des bons souvenirs, à part peut-être deux, trois épileptiques qui l'ont mal vécu. Mais c'est vachement rare, et puis s'il faut, c'est une légende.
D'accord. Du coup, vous avez pas mal de pièces. Donc, un Apple III, quand même, commencer par un Apple III, c'était pas une machine qui était très fréquente. C'est quand même une machine qui s'est bien plantée, qu'ils avaient essayé de remixer avec le Macintosh XL et tout ça. Mais vous avez d'autres engins vraiment remarquables, en dehors de donc, ce que vous avez bien voulu et accepté de nous amener en démonstration.
Ah oui, on a des trucs bien cool, quoi. On a par exemple l'Olivetti Programma 101, qui est une machine italienne, comme son nom l'indique, qui date de 1965 et que les Américains utilisaient quand ils ont fait la mission Apollo. Donc c'est une calculatrice, en 65, c'est deux tonnes.
C'est plutôt grand, oui.
Ouais, et puis c'est la classe italienne, design, tout ça, c'est excellent, ça. Voilà, par exemple.
Waouh. Une machine. Vous pouvez me redonner l'adresse ? Là, vous me donnez envie d'y aller.
Ah, c'est un bunker secret, donc c'est pas possible, je peux pas la donner à l'antenne.
Forcément. Est-ce que des fois, ces engins, vous les ressortez pour les allumer ? Est-ce qu'il y a des procédures régulières, justement, pour voir si elles fonctionnent toujours ?
Alors, tout ce que je viens de raconter, en fait, est dramatique. Parce qu'en fait, toutes ces machines sont vouées à l'autodestruction. C'est de l'obsolescence qui n'est pas programmée, mais qui est naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'électronique, et toute l'électronique se meurt. C'est triste, mais c'est comme ça.
Les condos coulent, les soudures font des barbures, ça s'oxyde.
Voilà. Et donc, une machine qu'on sort en 2005, qui marche, qu'on a révisée, on la ressort en 2020, et ben, elle ne marche plus. Bon. Il y a des composants standards qui changent, mais il y en a qu'on ne pourra jamais changer. Donc ça veut dire qu'il y a des machines qu'on ne pourra pas refaire, sauf à investir des sommes colossales pour retrouver ce qui avait été créé spécifiquement. Donc c'est triste, mais c'est ça qui est le fun.
Alors il y a plusieurs associations, il y a même un éditeur qui est spécialisé dans le rétro gaming qui va chercher justement ces pièces rares, il y a des collectionneurs. Est-ce que c'est... Il y a des discussions amicales ou c'est de la compétition pour acquérir certaines pièces qui font monter les enchères ?
Ah non, alors là, de ce côté-là, en tout cas pour nous, il n'y a aucune compétition, aucune jalousie, ni rien du tout. Déjà, nous, on n'a pas d'argent, donc c'est vachement simple. Notre association, en fait, n'a aucun subside de l'État, il faut le savoir. On se finance à travers les expos qu'on fait, notre expertise.
La dernière fois qu'il y a eu un musée du jeu vidéo qui s'est montré avec la bénédiction de l'État, ça s'est mal terminé. Hein. C'était à l'Arche de la Défense.
Oui, alors là...
Ils sont fait expulser.
Oui, ça c'est autre chose. Ouais. Donc nous, on a rien de tout ça et puis à la limite, on s'en fout. Quoi. On essaie de faire notre truc et puis voilà, la vie est belle comme ça.
Alors, comment vous en êtes venu à vous intéresser à des machines soviétiques ? C'était normal ou c'était, coup de cœur sur une bestiole ?
Eh bien, à l'époque, c'était quand même assez... Donc, les premières qu'on a récupérées, c'était vers 2000, peut-être un petit peu avant. Donc, c'était relativement rare. Il n'y avait aucune littérature. C'était un océan inconnu. Donc, cette terra incognita, en fait, elle était très attirante. Puis moi, j'aime bien. J'avais des amis, soit des Polonais, ou j'ai un ami qui était parti en Russie à l'époque, qui m'avait raconté quelques anecdotes assez sympas. Donc, il y avait quand même un background bien cool, quoi. Donc, tout cumulé, ça devient attirant. Et puis, quand j'ai la première opportunité pour en récupérer une, quand je la vois arriver, c'est mortel, quoi. Et... au-delà de ça, en fait, on récupère un truc, on ne sait même pas ce que c'est, on ne sait pas comment ça marche, on sait pas, et donc il faut essayer de creuser, de voir des gens, donc ce n'est pas évident. Alors aujourd'hui, évidemment, il y a des tonnes de témoignages, que ce soit les Russes ou les Allemands, ils ont pris à cœur de préserver tout ce qu'ils avaient fait, même si ça peut paraître dérisoire à certains Européens, ça ne l'est sûrement pas. Et puis c'est intéressant. Quoi.
Et puis c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du design italien, industriel, qui a quand même une sacrée patte. Et là, c'est vraiment...
C'est un autre style.
C'est les engins, mais autant certaines, ils ont une finition certaine, en tout cas au moins de loin.
Ouais.
Hein, à 2 mètres de distance, ouais. ça peut... Et d'autres sont vraiment étranges et bizarres. Mais ce sont des engins qui sont rares, très rares.
C'est rare, en fait, parce que par exemple, le sympathique ordinateur allemand que les auditeurs ne peuvent pas voir.
Bah non, ils n'ont pas payé la redevance couleur, donc c'est normal.
Et ben celui-là, et c'est peut-être un des plus diffusés. Il a dû être fabriqué à 10 000 exemplaires, donc c'est ridicule. Pourquoi ? Parce que ça s'est déroulé sur une période de temps très très courte, à la fin des années 80, quoi. À partir du moment où le mur est tombé, c'était fini, quoi. Donc ils ont tout ferraillé. Enfin, surtout
donc ils ont dit envoyé direct à la ferraille et il n'y a personne pour se précipiter pour tenter d'en récupérer un ou deux.
Bah, ils ont gardé un peu, mais comme toujours, ça, c'est difficile, quoi. Puis surtout, en Allemagne, ils ont fait un gros rejet, quoi.
C'est le passé,
ras-le-bol. Ouais, voilà, c'était ringard à mort. Et... Bon, puis de toute manière, il y en avait très peu, donc il n'y a pas eu. Donc nous, on avait un ami allemand qui nous en a envoyé, et même lui, un est-allemand en plus, il avait du mal à en trouver, quoi. Donc on a 3 ou 4 modèles de Robotron. Donc Robotron, c'est la marque avec le nom de la mort des ordinateurs, des petits ordinateurs est-allemands. C'est le top, c'est la Rolls des ordinateurs communistes. Et c'est difficile d'en trouver. Et maintenant, j'ai regardé, là justement, en préparant un peu mon propos, les tarifs sur les sites d'enchères, c'est délire, quoi. Les trucs, ils vendent ça hyper cher.
Sans être sûr que ça marche encore, s'il le faut.
Ah oui, peu importe. C'est de la nostalgie, c'est du folklore, quoi. Donc,
c'est la hausse nostalgie, comme ils disent les Allemands.
C'est ça, c'est exactement ça.
Vous écoutez CPU sur Radio FMR. On fait une pause. Ah bah voilà, au bout de 3 jours, le technicien de l'ascenseur vient d'arriver. Edouard Anatolievitch Kill, pour son fameux Trololo. Et vous écoutez Radio FMR, c'est CPU. Et nous sommes donc avec René Speranza, président de l'association de rétro computing Silicium et cofondateur, d'ailleurs on a oublié de le dire. René, tu as souhaité faire quand même un rappel plutôt court des ordinateurs européens avant de sauter le mur.
Non, en fait, je voulais juste te parler des ordinateurs soviétiques, pourquoi on en est arrivé à ce niveau de déliquescence, mais ça, je l'expliquerai après. En fait, quand ils ont commencé à faire des ordinateurs, les soviétiques, ils étaient au même niveau que les anglo-saxons, parce que bon, c'était les anglo-saxons. Faut pas se voiler la face, nous, en 1945, on représentait plus grand-chose, déjà à cette époque-là.
Ouais, et puis donc, eux, ils ont payé beaucoup plus lourd tribut que les États-Unis de leur côté aussi. Hein.
Les soviétiques.
Ouais.
En termes humains,
oui.
Et c'était qu'un début. Bref. Donc, en fait, le truc, c'est que, bon, les gens connaissent peut-être les premiers ordinateurs anglais ou américains comme l'ENIAC, là. C'était des espèces de stades de volée où il y avait des bugs dedans et tous ces trucs-là. Bon, ben, les Russes, vers cette époque-là, vers 45-47, ils étaient à peu près au niveau, quoi. Ils arrivaient à fabriquer les premières machines qui faisaient des grosses calculatrices, quoi, en gros. Hein. Mmh. Et ensuite, très rapidement, quand Staline est arrivé, a bien installé son pouvoir et puis la terreur, ils ont jugé que l'informatique, c'était quand même, comme la robotique, une science dégénérée de l'Ouest. Donc, du coup,
qui attaquait les travailleurs.
Oui, voilà, oui, c'était contre ça. L'idée, c'était, comme le montraient les Américains, en fait, de piquer le boulot des gens. Et donc, ils n'ont pas cherché à comprendre et ils ont freiné tout ça des cas de fer. Donc, ça a commencé à ralentir sérieusement. Alors, pour faire simple, au bout de... quand Khrouchtchev est arrivé, ils ont compris que c'était peut-être exagéré. Et ils s'y sont remis, mais ils ont eu du mal quand même. Donc, ils avaient toujours un train de retard, quoi, au niveau technologique, au niveau... de tout ce qu'ils pouvaient réaliser, même si au niveau recherche fondamentale, ils étaient largement au niveau, parce que les Russes étaient très très bons, les Soviétiques plutôt de ce côté-là. Donc ils avaient des gars très capables, ils avaient notamment, il y en a une petite anecdote un peu sympa, il y en avait un qui était aux États-Unis dans les années 50, à l'époque des époux, comment ils s'appelaient là, ces deux-là qui ont mal fini, et que Joan Baez, elle a fait une chanson dessus. Là.
Oula.
Comment ils s'appelaient, les époux. Bref, c'était deux Américains qui étaient des espions. Alors à l'époque, au début des années 60, les gens, dans les Occidentaux, ils disaient ouais, non, ils sont innocents, tout ça. Puis en fait, il y avait un espion américain en Russie qui avait clairement prouvé qu'ils étaient coupables. Et donc, tout ça pour dire qu'il y avait deux gars qui étaient des Tchèques, je crois, à la base, et qui avaient fait leurs études en Amérique et tout, et ils avaient réussi à émigrer par le Mexique et tout, et ils sont allés construire des ordinateurs d'un bon niveau, quoi. Mais bon, ça, c'était les années 60, et puis quand Brejnev est arrivé, donc c'était l'époque de la grande stagnation, comme ils appelaient, là, ça a commencé à freiner sec aussi, et puis ils se sont décrétés, et c'est là où ça les a... Ça a tué leur informatique. Ils ont décrété qu'ils allaient copier le matériel américain et au hasard IBM. Et donc, ils ont commencé à faire des clones, quoi. Donc, en faisant des clones, on perd la créativité, on perd tout un savoir-faire qu'il y avait avant. Et donc, on se retrouve à suivre, en fait. Parce que quand ils arrivaient à copier les systèmes 36 de chez IBM, IBM était déjà passé à une génération de plus. Et les années passent, on arrive à la fin des années 70 où ils sont complètement à la ramasse. Il n'y a plus rien qui sort. Au début des années 80, ils se disent, bon, on est peut-être à la ramasse, mais il faut quand même qu'on donne le change. Donc, on va essayer de démocratiser l'informatique. Donc, ça veut dire quoi, démocratiser l'informatique? Ça veut dire, en fait, les gars, ils voyaient qu'en Occident, l'informatique, il y en avait partout, dans les foyers, du matériel toujours plus puissant. Et eux, ils n'avaient rien de tout ça. Ce qu'ils arrivaient à faire, c'était copier des choses par voie plus ou moins détournée. Enfin, que détournée, d'ailleurs, je pense. Donc, copier des processeurs, copier des machines entières. Hein. Par exemple, la machine qui a servi à Tetris, c'est jamais qu'un ordinateur américain qui a été pompé complètement de A à Z. Donc au final, ils ont essayé de copier, mais ils n'avaient pas d'approvisionnement, ils n'avaient plus rien, quoi. Donc c'était le marasme.
Et du coup, donc il y avait une démocratisation, mais comment ces familles pouvaient se procurer en fait ces engins ? Comme je le disais en intro, quand on passait commande pour une voiture, il fallait parfois attendre une dizaine d'années avant qu'elle soit livrée. La richesse n'était pas forcément bien vue. Comment on se retrouvait en possession de ces bécanes ?
Ah bah c'est vachement.
C'est au marché noir contre 25 kilos de patates ?
Il n'y en avait pas. En fait, il n'y a aucun foyer des pays de l'Est qui avait des machines à part. Peut-être des super nantis qui devaient avoir des machines occidentales jusqu'en 88-89, quoi. Donc, juste à la fin, quoi. Et à la fin, ils ont commencé à sortir des machines, mais c'était déjà fini, quoi. Donc, en fait, par exemple, ce superbe Robotron dont je parlais tout à l'heure, c'était une machine d'éducation à la base. Donc, ils avaient, quand je parlais de la volonté de diffuser des micro-ordinateurs dans les pays de l'Est, c'était d'abord pour l'enseignement et pour faire ces choses-là. Et marginalement dans des clubs un peu comme ici pour diffuser la bonne parole, mais pas plus, quoi. Et donc le mur tombe, les frontières s'ouvrent, les foyers peuvent commencer à envisager d'en acheter, mais avant c'était super rare, quoi.
Donc vous nous avez fait le plaisir vraiment d'amener ces pièces qui sont plutôt exceptionnelles, qui ont vraiment un look là. Il n'y a pas que ma mâchoire qui est tombée. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Donc, il y a ce Robotron KC-87.
Klein Computer, Siebenenartig. Donc, c'est une série d'ordinateurs qui a été fait par un combinat. Donc, les combinats, c'est les entreprises est-allemandes, publiques, donc du peuple. Et donc, ça, c'est le dernier, le plus moderne de qu'ils aient fait. Et c'est un ordinateur qui est pompé, bon, tout est pompé. Hein. Donc ça, le processeur, c'est un Zilog qui avait été copié. Alors, je ne sais pas si c'est
Le Z80. Voilà, franchement, le microprocesseur qu'on retrouvait dans la plupart des machines 8 bits au début des années 80.
Ouais, c'était un des plus connus. Avant celui-là, ils avaient pompé un Intel qui était le père spirituel du Z80. Et donc, leur problème qu'ils avaient, c'est qu'ils n'étaient pas capables de fournir de la qualité. C'est-à-dire qu'ils faisaient 1000 processeurs, il y en avait 25 qui marchaient, quoi.
Ah, ce taux d'échec.
Ah ouais, non, c'était, ils étaient très très embêtés. Donc dedans, on retrouve celui-là encore, il est à peu près homogène, je dirais. C'est-à-dire que c'est de la production est-allemande ou russe.
Et puis c'est impressionnant, c'est les touches qui sont très étroites et très.
Bah, ça devait être un pupitre de commande de missile pour aller vitrifier l'Occident. Par exemple.
Donc en fait, oui, simplicité. Quoi.
Oui, réutiliser du matériel qui était disponible, parce qu'il n'y avait pas grand-chose de disponible. Donc le combinat Robotron, c'est un combinat qui a été créé en milieu des années 80, justement dans cette optique de créer d'électronique de masse. Donc c'est masse.
Ça veut dire que c'est à la masse ou parce que
non, c'est pour les masses.
Produit en masse.
Pour les masses. C'est pour les masses.
Okay.
Pour les masses. Ouais. Et, ils faisaient de la radio, ils faisaient des télés, ils faisaient pas de magnétoscope, ils faisaient pas de lecteur de CD. Ils ont essayé de faire des lecteurs MP3, mais ça n'existait pas, donc ils ont pas pu en faire. Mais par contre, c'était du bon acier allemand, et puis c'était la qualité est-allemande. Voilà.
Oui, c'est vrai, parce qu'en général, c'était du plastique que l'on avait, nous, de notre côté et tout. C'est vrai que point de vue matière... Alors là, je sors mon micro. C'est absolument impressionnant. On se dit que la machine est increvable, mais à l'intérieur, c'est...
Encore celle-là, elle est bien, elle tient le choc, mais les autres, là... Donc,
Y a d'autres qui ressemblent plus à du bricolage.
C'est un peu ça. Donc, en fait, l'idée, c'était quoi ? C'était d'utiliser les moyens. Donc, on utilisait le complexe militaro-industriel pour produire, parce que le plan, on l'avait décrété, quoi. Et donc, ils arrivaient à fournir ce genre de choses. Mais le coût n'était pas réaliste. C'est-à-dire qu'ils faisaient des machines comme ça, elles coûtaient une fortune là-bas à fabriquer. Et donc c'était pas possible, quoi.
Mais on n'est pas dans un pays capitaliste, on y va, on crame.
Mais malgré tout, ça consomme des ressources qu'ils n'avaient pas, donc c'était trop, quoi. Déjà rien que de la bonne ferraille comme ça, bien peinte, et puis les composants dedans, c'était cher, quoi. Donc trop cher.
Et voilà. Ça se branchait, c'est un clone, et jusque dans les prises.
C'est à moitié un clone, celui-là. Il est quand même vachement.
Ouais, il y a quand même de l'originalité.
Par rapport à ce qu'on fait nous, c'est original, mais sinon c'est.
Ah, mais il a même un fusible sur le côté, à côté
de l'alimentation. Oui, alors il mettait des fusibles. Parce que dans la bureaucratie de l'État communiste, il fallait des fusibles à faire sauter. Donc les
oui,
machines.
Oui, en cas de purge, forcément.
C'est ça.
Forcément.
C'est ça, c'est ça. Donc voilà. Donc, une bien belle machine comme on aimerait en voir plus souvent.
D'accord. Donc à côté, on a d'autres engins. Oui, oui, on peut sortir. Allez-y. Hop.
Alors après.
On a un peu de mou, donc on peut y aller. Hop, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, allez-y, 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 on peut tranquillement.
Alors, après, pour varier les plaisirs, j'ai amené quelque chose d'un peu plus rare, je pense. C'est une console de jeu. Parce qu'en fait, il n'y a pas de console de jeu. Comme je disais juste avant, les composants...
Là, on est vraiment dans le loisir décadent.
Oui, oui. Comme les composants étaient trop chers, on n'avait pas les moyens là-bas de se payer le luxe de faire un truc qui ne serve qu'à jouer. Donc... Je sais pas trop l'histoire de ce machin. Donc ça, c'est les camarades polonais qui ont fait ça. Donc c'est Elvro, c'est une espèce d'équivalent de Robotron. Et ils fabriquaient des télés notamment. Mmh. Et elle a un style télé vachement prononcé. Et je pense que si elle existe, c'est parce que les composants qu'il y a dedans sont des composants occidentaux. Donc c'est d'accord. Un Pong. Un bête Pong. Hein.
Oui, ça ressemble en fait à un multifonction Philips qui faisait Pong, tennis et tout ça.
Ouais, je pense.
Et justement, il y avait un modèle qui, avec les manettes, enfin, les manettes, c'est les boutons rotatifs, ouais. Qui était sur le côté et qui s'intégrait dans le boîtier.
Ouais, je pense qu'il y a.
Donc c'est vraiment un repompage dans le design. Quoi.
Ouais, je pense, ouais. Ouais. Bon, je sais pas trop, ça, j'avoue que ça, c'est mystérieux.
D'accord.
Alors après, les Polonais aussi, ils n'étaient pas en reste au niveau technologique parce qu'ils avaient des gars bien inventifs.
Alors là, s'il y a quelqu'un qui peut remettre la manette,
je suis capable de
parce
faire.
Parce que là, on est debout avec un micro, donc voilà. C'est pas simple. Voilà.
Hop, voilà. Donc, ouais, les Polonais, ils ont fait. Alors, j'en ai pas amené d'autres, mais on en a des chouettes parce que, en fait, les Polonais, ils avaient des universitaires qui ont réussi à faire des trucs sympas. Mais toujours, c'est à la fin des années 80, quoi, tout à la fin.
Et puis, les Polonais, quand même, justement, on prépare une histoire à la cryptographie, ils étaient très, très forts au niveau mathématique.
Ouais, c'est ça, ouais.
Il y avait une très forte école.
Ils ont décrypté.
Qui a beaucoup influencé la mathématique, les mathématiques modernes.
Oui. Alors ensuite, ça
c'est absolument hallucinant. C'est un boîtier, on sent l'engin industriel qui a été détourné.
Ouais, c'est ça. Ouais, bah de toute façon, tout est comme ça quasiment. Hein.
Et les touches qui sont des touches transparentes avec dessous du papier qui a été imprimé.
Bah, c'était pour mettre le nom des gars. C'est un standard téléphonique, une petite taille quoi. Donc là, il devait y avoir la petite matrice avec les chiffres pour téléphoner. Et puis là, c'était pour commuter ou que sais-je.
Et donc transformer vraiment en ordinateur.
Voilà, ouais, avec ingéniosité comme j'aime. Et donc en fait, alors le drame dans tout ça, c'est que ça date de 1990. Donc
ah ouais, quand
voilà,
même.
Voilà, le truc dedans, c'est immonde au niveau fabrication. La machine en elle-même, c'est comme beaucoup de ces machines, c'est des clones de machines occidentales. Donc en 1990, c'est un clone de Sinclair Spectrum, qui est un ordinateur familial anglais. Dont les plans avaient fuité, donc on retrouve dans tous les pays du bloc de l'Est, et malheureusement qui tourne deux fois moins vite, je pense, à cause des composants utilisés. Ils n'avaient pas autre chose. Les gars, ils devaient récupérer des stocks de composants, puis en fonction de ce qu'ils avaient, ils s'adaptaient, ils créaient quelque chose, quoi. Mmh. Bah, ça marche. Et moi, j'imagine le jeune... donc ça, c'était un jeune roumain qui achetait ça. Parce que ça, en 90, c'était destiné aux gens. C'était pas comme les Robotron qui étaient destinés à l'apprentissage. Le jeune, il n'a rien connu, il s'en fout, lui. Il trouve ça bien. Et c'est super. Donc même avec cette merde...
Oui, c'est sûrement beaucoup plus accessible que les ordinateurs.
Au moins, il a quelque chose. Et puis bon, il devait récupérer, comme j'ai les cassettes de celui que l'on parlera après... les jeux, ils étaient déjà faits, tout, c'est super. Donc,
jusque-là, on est encore dans l'alphabet latin, hein. Oui. Puisqu'on est encore dans l'Europe de l'Est qui est encore latine, on va dire. Après, donc, il y a cette bécane qui quand même, que vous avez allumée, sur laquelle vous avez chargé un jeu.
Oui. Incroyable.
Incroyable. On a trouvé une télé dans Mixar Miris sur laquelle ça tourne. Là, on peut applaudir.
En couleur.
Ouais. Et donc, là, donc cet engin, là aussi, il fait très propre.
Et il ne l'est pas. Il ne l'est pas, ouais. Mais peu importe. Le truc, c'est... alors ça, je ne sais plus c'est quoi. Je crois que c'est tchèque. C'est didactique, donc c'est un fabricant...
Oui, on peut poser un micro. Alors, le son ne vient pas de la télé, apparemment, ah non, il vient de la bécane.
Ouais, ouais, bon, allez, ouais. Passer le Spectrum avec les haut-parleurs dans la machine, je pense.
Mais ouais. En fait, c'est un jeu Spectrum qu'on a.
Ouais, bon, alors j'avais des cassettes spéciales qui est didactique, mais elles ne marchent plus forcément. Donc, j'ai utilisé des cassettes, ouais. Des cassettes Sinclair, et évidemment, ça marche.
Oui, forcément, si c'est, voilà. Si c'est un clone.
Si c'est le dieu de l'informatique qui les a punis.
Oui, forcément. Copié, Et puis, il y a cette machine qui semble être très propre, qui est d'un blanc immaculé. On dirait l'un des derniers à Amstrad 8 bits qui était sorti.
Alors, celle-là, elle est ukrainienne. Et donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, en fait, je l'avais récupérée par l'ami d'un ami d'un ami qui connaissait un Ukrainien qui collectionnait les étiquettes de fruits. Donc, les étiquettes, je ne sais plus c'est quoi les noms là, des. Le gamin, des trucs comme ça. Et donc le gars, lui, il voulait que je lui envoie des étiquettes que je collais sur des feuilles à quatre blanches. Et
donc des trucs de fruits, d'hypermarché, des trucs comme ça.
Ouais, voilà, ouais, ouais. Ouais.
Et contre ça, vous avez ce truc qui est...
Ouais, voilà. Bon, lui, il s'en foutait de ça. Et je me rappelle, j'avais envoyé des étiquettes qu'il y a sur les melons espagnols, là, des machins dorés, tout vachement.
Oui, bon. Oui, c'est vrai que c'est.
Là, le gars, il était fier comme un prince. Non, s'il nous
tout
écoute.
Tout ça pour une machine. Édité à combien d'exemplaires?
Alors là, aucune idée, mais bon, pas beaucoup, hein, je pense, je sais pas.
Mais à peine un millier, probablement.
Ah oh, oui, c'est un truc dans ce goût-là, quoi. Après, il n'y a pas de.
Ah oui, c'est vrai que quand vous le tournez dessous sous éclairage, on voit que le moulage, quand même, n'est pas très,
ouais,
très uniforme.
Ouais. Ça a dû être fait à la main.
Et quoi. Là, pour le coup, on a vraiment à la fois l'alphabet latin et l'alphabet cyrillique. C'est quoi? C'est une copie d'une bécane
Ouais, je crois que c'est un Sinclair, ça aussi.
Et du coup, comment ils faisaient pour afficher le cyrillique?
Ils avaient des programmes spéciaux, ouais, ou des ROM doubles.
Double, ouais. Switché comme
ouais,
ça.
Ouais, switché, ouais. Et sinon, en fait, c'était les premiers ordinateurs russes qui affichaient en cyrillique. Donc les clones dont j'avais parlé au début, soit d'IBM, soit de Digital, étaient trafiqués et refaits en cyrillique. Mais
ne me reparlez pas des code page.
Ouais, non, là, non. C'était peut-être pas ça.
Non.
mais après, une fois qu'ils ont pompé du Sinclair, bête et méchant, ils ont laissé tomber. Ils ont tout fait en alphabet latin, forcément. C'est mieux.
D'accord. D'un autre côté, c'était que du repompage. Donc, c'était les mêmes langages de programmation. C'était du basique,
ouais, c'est du basique en anglais,
à l'occidental.
En anglais, ouais.
Ouais, alors qu'en France, avec la liste, on a essayé en français. Ouais,
ouais, le LSE, non.
Non, c'était... Non.
Non, c'est dommage qu'ils n'aient pas fait les
bouts. Non, arrêtez de ricaner derrière. C'est notre héritage techno-centraliste énarquien.
Bah, chacun sa dictature.
Et du coup, donc, il y a... Moi, j'ai... Enfin, le graphisme brutaliste et tout ça, je suis impressionné parce qu'on le retrouve dans une des boîtes que vous nous avez amenées. Donc, ce graphisme qui est à la fois naïf et à la fois vraiment... plein, donc dans lequel il y avait justement, je crois que c'était cette bécane qui était dedans.
C'est Robic, il s'appelle Robic lui.
Robic. Ouais. Oui, je dis mal le...
Ça c'est le logo, c'est stylisé.
C'est... Ouais, non, bah, alors là, si on montre à la radio, effectivement, ouais, heureusement là. Qu'on a les amis de TV Bruit qui tournent derrière, ouais. On vous postera les photos, mais c'est impressionnant parce que même à la limite, ça a sa propre créativité, il y a quelque
ouais,
chose
ouais,
derrière,
ouais,
c'est absolument magnifique. Mais du coup, ça veut dire que c'était décidé comme ça, c'était quelqu'un qui décidait le chef de l'usine qui disait on va produire des ordinateurs comme ça et on va récupérer les pièces, je sais pas quoi.
Ouais, il y a deux écoles, il y a l'école Robotron, c'est très étatique, c'est assez tôt au milieu des années 80, et puis après il y a l'école Robic où là c'est plus des initiatives locales, hein, je pense. Ils avaient commencé à libéraliser beaucoup l'économie, la possibilité d'importer du matériel, etc. Et puis les gars, ils étaient capables de faire des choses sympas. Donc avec peu de moyens, ils font ça, et voilà.
Et à côté de cela, il y avait une Logitech originale, mais qui était surtout orientée autour de l'éducatif, quoi.
Ouais, ça, il y en avait, ouais. Sur celui-là, j'en ai amené, mais on va pas les mettre parce que c'est atroce. Il y avait des logiciels éducatifs pour apprendre. Bon, là, j'avais amené le basique. Alors, il y a des cassettes. Parmi les cassettes, il y a des cassettes audio. On écoute dans un allemand de qualité, dispenser des cours de basique. Et puis après, il y a des cassettes de démonstration pour se familiariser à l'informatique, quoi.
D'accord. On a quand même quelques programmeurs talentueux. On ne va pas revenir sur l'histoire du créateur de Tetris parce que malheureusement, on bouffe beaucoup de temps. Alexei Pajitnov, il y a une bande dessinée américaine qui est sortie récemment, qui était prépubliée d'ailleurs dans, dans Le Monde. Très, très bien.
Je l'ai lu, je l'ai lu.
Et qui reprend d'ailleurs depuis l'origine ce qu'il a fait, pourquoi il a créé ce logiciel, comment il a eu comment il se passait en shareware de main en main et comment il est arrivé chez un éditeur qui en a pris la suite et surtout le procès qu'il y a eu.
Je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus intéressant, mais c'est ça... plus sympa la partie création à l'époque, seul dans son coin, dans sa fac à Moscou. Ça, c'est sympa. Après, les problèmes de droit et tout ça.
Est-ce qu'il y avait une presse spécialisée? Alors, moi, je suis retombé sur la revue yougoslave Rationary avec ses une très aguicheuse qui ferait. Oula, je ne les montre pas ici. Il y aurait des féministes qui voudraient me tuer. Mais après, non, pas tant que.
Il y avait de la presse. Moi, je connaissais en Allemagne de l'Est, c'était des magazines techniques, la presse technique. Donc, ce n'était pas à destination des familles. Et dedans, ils parlaient de l'informatique, quoi. Mais c'est tout. Et il faut attendre la chute du mur pour voir des choses arriver. Mais je ne maîtrise pas trop ça, moi.
Ok. Il ne faut pas le remettre comme pendant qu'ils sont ouverts. On va faire une pause musicale, excusez-moi. Et tiens, puisqu'on va parler de Tetris, un petit medley par les équipes d'Overclocked Mix. Vaf, donc qui a repris Tetris. Excusez-moi, c'est un medley qui s'appelle Tetris, Gift from Moscow. Et donc c'est sur remix.overclocked.org. On vous donnera toutes les références. Vous écoutez Radio FMR. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile. Et nous sommes donc avec René Speranza, donc, qui est le président de l'association Silicium, qui nous a amené des machines absolument superbes. Je tiens à signaler qu'il y a un des collaborateurs qui ne vient pas usuellement justement à d'autres enregistrements, puisque nous sommes donc avec Anthony, qui fait notamment la partie Kill by App avec Pia. Peut-être tu veux donner tes impressions vis-à-vis de leur design et tout ça. Mais si, viens. Bien, parce qu'après, il nous reste juste 2 minutes, il nous fait perdre du temps, là.
Ouais, non, j'ai un coup de cœur pour le clavier latin cyrillique, je trouve ça magnifique.
C'est absolument superbe. Et d'ailleurs, si je me trompe, il y avait déjà, dès 86-87, il y avait des ordinateurs qui étaient produits en France, qui écrivaient à la fois en écriture latine et en arabe, donc qui géraient le gauche-droite et tout, donc c'était beaucoup plus à élaborer.
C'est pas français, c'est japonais qui les fabriquaient.
Oui, on faisait croire que c'était les boîtes françaises qui étaient derrière.
Sagno, tout ça.
D'accord. Il se trouve qu'il y a un musée de machines d'arcade à Moscou et à Saint-Pétersbourg. D'ailleurs, je crois que c'est les mêmes personnes qui le gèrent. Vous avez pu essayer justement les machines d'arcade qu'ils produisaient ?
Non, mais j'en ai entendu parler. J'ai vu des vidéos dessus. Ça déchire bien.
Ah, c'est impressionnant. Ouais. Et puis apparemment, ils sont vraiment dans la nostalgie de l'Est, jusqu'à proposer bières et les limonades de l'époque.
C'est donc, dans des espèces d'immeubles, des apparts, enfin ça a l'air assez cool quoi. C'est sûr que...
Pour le coup, on fait une super soirée.
Après, je suis pas sûr que les jeux ça soit top niveau, mais c'est vrai qu'un jeu de sous-marin, quand même, ça a du charme là où on tire sur des bateaux américains, c'est rigolo.
Ou Octobre Rouge, on essaie de fuir. Non, pardon. On dit que ces machines étaient construites par le conglomérat militaire.
C'est le complexe militaro-industriel.
Et vous êtes tombé sur un jeu de simulation de missiles ?
Non.
Dommage, ça intéresserait beaucoup. Comment fait-on pour entretenir ces machines qui ne sont pas d'une construction industrielle ? Certaines, d'ailleurs, je crois, n'ont même pas de carte mère. C'est de la soudure câble à câble.
Oui, c'est wrappé. Eh ben, on fait ce qu'on peut, mais des fois, on ne peut pas grand-chose parce que le processeur, même si c'est un clone, il ne marche pas pareil. Donc, on ne peut pas le changer, etc. Les RAM, c'est pas les mêmes. Tant pis, on en profite tant qu'on peut.
Oui, Raphaël.
On fait comme dans les télécoms, on revrappe.
Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Pour débugger, c'est pratique.
Ouais, mais moi, le wrap, je le préfère au NAN, excuse-moi. excusez-moi. Bon, c'est franchement bas de gamme et tout, non. Je m'excuse, mais on va prendre un cours.
Cours d'archéologie anthropocénique. Premier semestre. Attention, toute reproduction complète ou partielle des cours des professeurs de l'université Alain Minc n'est exclusivement autorisée qu'à ses étudiants et anciens diplômés. Toute reproduction illégale est susceptible de poursuite. La peine encourue est l'effacement.
Plevetchem, bonjour à tous. Rejoignez la visioconférence, mettez votre casque de réalité virtuelle. Nous allons aujourd'hui étudier la technologie soviétique. Alors je sais que les interférences solaires perturbent vos pupitres, mais bon, vous savez dans quel état est la magnétosphère. De nombreuses traces de technologies soviétiques sont parvenues jusqu'à nous, notamment grâce à une période appelée la guerre froide et qui, comme son nom l'indique, a duré plusieurs hivers. Une époque où l'économie de marché capitaliste combattait l'ennemi communiste, mais c'est un autre sujet. Quand on pense à la technologie soviétique, on pense à des machines de métal nu peintes en lettres cyrilliques rouges. Et ça n'est pas si éloigné de la réalité. Si l'on en croit nos archives, la technologie communiste avait la réputation d'être rustique mais robuste, à l'image de la Kalachnikov qui fonctionne même après avoir été traînée dans l'eau ou dans le sable. Ou encore l'UVB-76, le buzzer, une station de radio en ondes courtes qui émet encore de nos jours de courts messages à usage militaire, même s'il n'y a plus aucun soldat russe pour les recevoir depuis que Trump a rasé l'Eurasie, pendant la guerre nucléaire de 2019 contre la Corée du Nord.
Oh putain, tu spoil.
Mais puisque nous parlons de technologie rustique et robuste, parlons des murs, une autre spécialité soviétique. Des murs, il y en a eu beaucoup. Le mur de fer, le mur de Berlin, le mur entre les États-Unis et le Mexique. Ah non, celui-là, il n'était pas soviétique, pardon. D'après les uns, il s'agissait d'empêcher les gens de rentrer dans les paradis communistes. Selon d'autres, il s'agissait d'empêcher les gens de s'enfuir. Bref, c'est le principe d'une frontière, il y a toujours un bon et un mauvais côté de la barrière et vice-versa. D'ailleurs, il était souvent question de dictatures communistes comme la Corée du Nord ou Cuba. Mais ce pléonasme étonne les historiens car nous n'avons trouvé aucune trace d'une dictature qui ne soit pas communiste. Kevin, assieds-toi. Yo, mice, okablet. Mais revenons à la technologie. Il y avait aussi les fusées et les missiles. Yuri Margarine, Yuri Margarine, le premier homme dans l'espace, et avant lui Laika, le premier animal à s'être évanoui dans l'hyperespace et qui serait d'ailleurs l'ancêtre de Chewbacca. On peut citer également les missiles Scud. Si vous cherchez l'origine de l'expression se prendre un Scud, ça vient de là. Aujourd'hui, cette technologie rustique et robuste semble bien loin. Avec notre haute technologie et notre obsolescence programmée, on pourrait presque la regretter. Mais comme disait le grand philosophe Vladimir Poutine, celui qui ne regrette pas l'URSS n'a pas de cœur. Mais celui qui souhaite sa restauration n'a pas de tête. Allez, na zdrovie to valech.
C'est une récitation. René Speranza, merci infiniment d'être arrivé avec ces vraies pièces de musée.
Avec plaisir.
De les avoir redémarrées pour nous au sein du Theta Lab. Et en tout cas, on souhaite qu'elles puissent fonctionner et que d'autres personnes puissent avoir cette expérience formidable.
Ben, merci. Merci à vous.
De retour en 2017, c'était CPU, le programme Carré Petit Utile. Pour cette release, l'équipe était composée de Daskritch, camarade président du Présidium Suprême, Solarus, camarade premier secrétaire du parti, Megami Yume, camarade secrétaire général à la Région Populaire, Enflammé, camarade commissaire au peuple. La release a été shippée avec les moyens techniques du Theta Lab, de Mixer Miris, de TV Bruit et de Radio Éphémère, et merci infiniment au public présent. L'intégralité du programme, les extraits et les sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez en commenter et partager. À l'exception des parties musicales, les chroniques et interviews sont en Creative Commons. Ouais, quoique je crois que c'était en licence libre. C'est passé en domaine public. Ouais, ça s'en va voir. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. On t'a pas entendu, je suis désolé, mais la blague était très bonne. Si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, oui, ça existe encore, et il est presque midi, nous cédons à Monique Blanquet pour son interprétation de Guerre épée, Tolstoy, Overhaul.